à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, il va peut-être moins être question de dénouer le fil que de le remettre en circulation. Et oui, puisque depuis quelques années, un mot s'est imposé dans la mode comme une évidence, c'est-à-dire évidemment la circularité. Recycler les vêtements, transformer les déchets textiles en nouvelles fibres, fermer enfin la boucle d'une industrie qui produit plus de 100 milliards de pièces par an. Sur le papier, l'idée est simple, et en plus elle fait rêver. Mais dans la réalité industrielle, c'est une toute autre affaire. Car derrière cette promesse circulaire se cache une série de questions et de problématiques techniques beaucoup plus complexes. Que ce soit la question des fibres mélangées presque impossibles à séparer, des textiles chargés de teintures et de traitements chimiques, une collecte encore très hétérogène et des technologies de recyclage qui peinent encore à passer de l'expérimentation à l'échelle industrielle. Car oui, évidemment, dans le meilleur des mondes, si l'on produit sans cesse, ce serait vraiment merveilleux de pouvoir se dire qu'il suffirait simplement de remettre tout ce qu'on a dans la machine et hop, de nouveaux vêtements surgissent. Et dans ce cas-là, on peut continuer en vitesse de croisière et ne rien changer. Mais vous vous doutez bien que lorsque quelque chose semble simple, c'est que l'on a à peine effleuré l'ébauche même de la complexité au cœur d'un sujet. C'est pourquoi cet épisode aujourd'hui sera un peu plus technique, mais je vous prends par la main et restons ensemble car nous allons aborder tous ces points de façon vraiment précise, certes, mais accessible pour que vous puissiez vraiment comprendre les enjeux à l'échelle industrielle et également les problématiques de l'ordre de l'ingénierie qui se logent au cœur des promesses qu'on nous rabâche sans cesse. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir un acteur directement engagé dans cette transformation, Alain Poincheval, qui va représenter l'entreprise Reju, qui appartient à Technip Energy. Et donc Reju est une entreprise qui développe une technologie de recyclage chimique du polyester visant à produire une fibre recyclée capable de rivaliser avec la matière vierge. Nous allons parler donc du polyester, non seulement la fibre omniprésente dans la mode contemporaine et également leur sujet. Et puis c'est important puisque cette fibre va nous permettre de déployer toutes les problématiques de limite du recyclage mécanique, de la promesse également du recyclage en boucle fermée ou textile to textile, mais aussi des verrous très concrets qui restent à lever pour que cette circularité devienne une réalité. Car recycler la mode n'est pas seulement une question d'intention. C'est aussi une question de souveraineté, d'économie, de revalorisation et peut-être de génération d'une nouvelle valeur. Car vous allez le voir, ce n'est pas uniquement une question de sustainabilité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais allez, moi je vous laisse avec l'épisode. Je vous invite néanmoins à rejoindre Décousu sur Instagram Décousu Podcast et surtout à mettre une note à l'application sur votre application de podcast, à partager l'épisode sur votre compte Instagram s'il vous a plu et à en parler autour de vous. Voilà, je suis sûre que si ça vous intéresse, ça pourra intéresser des gens. Donc moi, je vous laisse et je vous souhaite un très bon épisode. Donc aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Alain Poincheval, donc de l'entreprise Reju. Si je le prononce bien, pour aborder la question assez complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, du recyclage textile. Donc pour commencer, comment allez-vous, tout simplement ?
Écoutez, ça va bien, comme un mardi, on est mardi. Reju est une société qui appartient au groupe Technip Energy, donc vous êtes bienvenue ici. C'est un monde d'ingénieurs, donc je pense qu'on essaiera d'avoir des explications qui puissent satisfaire votre auditoire. Mais on est lancé maintenant avec cette initiative dans un modèle d'économie circulaire. Et donc, la mission qu'on s'est fixée, c'était justement d'apporter une solution au problème du textile, des déchets textiles plus généralement, en Europe, aux États-Unis, dans le monde occidental aussi beaucoup, avec une technologie qu'on a développée nous-mêmes.
Très bien.
Donc, c'est ça le recyclage chimique.
Donc oui, effectivement, on va essayer d'être pas trop technique sur les termes employés. Tout du moins, si on va glisser dans des considérations plus techniques, on prendra le soin en préalable de tout pouvoir expliquer. Alors, c'est un sujet qui est absolument essentiel, puisque c'est vrai qu'on parle de plus en plus de circularité, modèles circulaires, etc. Et de recyclage, un petit peu comme si c'était la solution magique. Il suffit de gaspiller, entre guillemets, parce que de toute façon, ça fera de la matière à recycler. Mais c'est bien plus complexe que ça. Le recyclage en lui-même a déjà un impact, d'autant plus que vous parlez déjà du recyclage chimique. Donc, il va déjà falloir différencier ce que c'est que le recyclage chimique et mécanique. Donc, on va commencer avec un petit peu une définition des termes, puisque au-delà de Reju en lui-même, on va aussi parler du recyclage de façon plus globale. Donc, pour commencer, aussi vous êtes spécialisé sur tout type de textile ou vraiment sur le polyester plus spécifiquement ?
Reju a décidé d'adresser une problématique qui est la problématique du polyester.
Voilà, c'est pour ça que ça va être le sujet central aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un sujet central. Pourquoi ? Parce que c'est la fibre textile la plus répandue au monde.
Exact.
D'accord ? Donc le polyester, son petit nom chimique, c'est le polyéthylène téraphthélate, connu sous le nom de polyester. Les premiers polyesters qui ont été introduits en France, par exemple, dans les années 50, c'était connu sous le nom de tergal. Vous voyez, ça vous dit, vos grands-parents ont connu ça sous cette dénomination. Donc c'est un matériau qui est connu déjà depuis très longtemps. Vulgairement, on l'appellerait le plastique quand il est utilisé dans l'ameublement ou autre. Et dans la fibre, textile, on trouve donc cette fibre majoritaire, le polyester. Sauf que, de plus en plus, la fibre n'est jamais isolée toute seule. Voilà. Et donc, elle est constituée d'un mélange. Et donc, on a ce qu'on appelle des polycotons, polyester et coton majoritairement, mais aussi d'autres fibres qui viennent être filées pour faire des tissus comme les viscoses. D'accord ? Et maintenant, de manière très populaire, on ajoute aussi d'autres matières telles que l'élastane, ce qui fait cette souplesse, etc. Et on ajoute beaucoup de produits chimiques de manière générale. Mais on met aussi de la laine, on met aussi du coton, on met aussi des fibres plus qualitatives, la soie, etc. Et donc ça, c'est la technologie du filage.
Là, je suis désolée, il va falloir que je vous coupe d'emblée parce que ça, c'est un sujet qui est vraiment clé et on va l'aborder au fur et à mesure. Mm-hmm. Mais d'abord, donc aussi parce que je sais que je m'adresse potentiellement à des néophytes, simplement par exemple la viscose, qu'est-ce que c'est ? C'est une fibre qui est ce qu'on appelle une fibre artificielle, ça veut dire que c'est fait à la base de matériaux naturels, donc de la cellulose, de la pulpe de bois, etc., qu'on va ensuite travailler. Et donc ça devient une fibre qui n'est pas autant artificielle par exemple que le polyester. Mais pourquoi est-ce que c'est un enjeu de parler des compositions ? On le verra, pour des questions de recyclage, c'est absolument essentiel. Mais pour d'abord vraiment bien établir les bases, on va aussi essayer de comprendre, en fait, pourquoi aujourd'hui, on va vous parler du fait que le polyester est la fibre principale. Selon Textile Exchange, l'année dernière, on était sur 59% de fibres mondiales neuves produites qui étaient donc du polyester. Et pourquoi, en fait, et quand est-ce qu'on en est arrivé à ce que ça devienne cette fibre majoritaire et après on parlera de la différence entre mécanique et chimique et ensuite on rentrera dans la problématique des fibres et de la composition des fibres qu'on achète, etc. Mais d'abord, pour bien remettre les bases du profil polyester,
le polyester, on est addict au plastique.
Ouais, tout à fait.
Vous êtes assis sur du plastique, vous tenez du plastique, vous pouvez pas vivre aujourd'hui sans plastique. Pourquoi ? Parce que le plastique, c'est une matière qui est... on n'a pas trouvé d'équivalent. Mécaniquement, c'est un très bon matériau. C'est pas cher. Ça a d'excellentes propriétés vis-à-vis de l'eau. Ça ne retient pas l'humidité. Ça tient à la chaleur, dans certaines conditions. Et ça permet d'être travaillé avec d'autres matières de manière assez simple. Ça peut être joli, ça peut être moche aussi, bien sûr. Mais... on emploie du plastique depuis la poubelle
jusqu'au satellite.
Exactement. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on est complètement devenu addict au polyester. Et c'est une matière qui est tellement peu chère qu'elle a envahi notre marché. Maintenant, la matière toute seule n'a pas des propriétés dans le monde du textile suffisante pour satisfaire l'ensemble des consommateurs, et l'offre nécessite d'avoir un mélange. Et c'est ça qui devient compliqué, parce que de plus en plus, ce qui est proposé aux consommateurs sont des mélanges de fibres pour pouvoir avoir cet aspect plus qualitatif, soyeux, la couleur, le rendu.
Élastique aussi ou pas l'élastane ?
L'élastane, donc pour avoir un confort supérieur. Et donc ça a nécessité de travailler au fil des années précédentes, les 10 dernières années, 15 dernières années, à travailler sur l'agglomération de cette fibre avec d'autres fibres. Et aujourd'hui, majoritairement, on retrouve une fibre textile exchange, je vous le mentionnais, qui a majoritairement une composition caractéristique dans le monde, entre 70% de teneur en polyester et 30% autre. Le autre étant les viscoses, étant le coton, étant les colorants, parce que ça devient une masse. Maintenant, ça pose le problème en se disant, le problème c'est quand même le polyester et le plastique, et on le retrouve partout. Pourquoi c'est un problème aujourd'hui ? Parce que on consomme de plus en plus, et donc les modes de consommation sont passés à une vitesse vertigineuse, on le voit s'accélérer depuis les 5 dernières années. Et en consommant davantage, on a aussi augmenté la fréquence où on garde de moins en moins longtemps son textile, son vêtement. Donc il y a 5 ans, on gardait un vêtement de l'ordre de 5 à 6 ans. Donc il restait 5 à 6 ans dans son armoire à la maison avant d'être jeté. Maintenant, c'est 3. En 5 ans, on est passé de 5 à 6 ans à 3 ans. Donc il y a une accélération et donc une augmentation des déchets. Et ces déchets, principalement, sont donc du polyester qui est d'origine fossile.
Important de le préciser ça, parce que même d'un point de vue géopolitique, en termes aussi de guerre et d'industrie, enfin de soutien indirect à la guerre, notamment pour la Russie, c'est un véritable enjeu. On n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais il faut avoir ça en tête.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est une matière peu chère, issue du fossile, et avec un prix de revient très très faible. Donc, on comprend qu'elle a eu du succès. Maintenant, le problématique n'est pas la matière en tant que telle, c'est qu'elle est inscrite dans un modèle qui est purement linéaire. Donc, le modèle linéaire, aujourd'hui, c'est celui qui s'impose. Vous achetez, vous consommez, alors d'abord on extrait la matière fossile, donc le pétrole, on le transforme, on en fait une fibre, c'est donc un fil, ce fil on va le tisser, on va faire donc un tissu, un designer va couper le vêtement, et puis vous allez le retrouver dans une boutique, vous allez l'acheter, vous voyez donc toute la chaîne de transformation.
Sans parler de la partie en emblissement qui elle aussi a un grand impact, etc.
Exactement, et à la fin, vous le jetez à la poubelle. Et donc, vous êtes dans un modèle purement linéaire. Et ce modèle purement linéaire génère des déchets, et il y a un moment donné, on se dit, stop. Donc, on a commencé par recycler nos bouteilles, on recycle l'aluminium. Pourquoi on ne recycle pas le polyester ? Pourquoi ? Parce que le recyclage du polyester, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans une bouteille, vous avez à peu près que un ou deux ou trois matériaux.
Voilà. Et c'est là qu'on revient à la problématique des multiples fibres, exactement. Voilà.
Donc le premier recyclage qui existe aujourd'hui, c'est le réemploi. Donc c'est ce que fait l'économie sociale et solidaire, récupérer dans des bennes dédiées des textiles qui pourront être reproposés aux consommateurs en deuxième main.
Et encore, je vous enjoins à écouter l'épisode qu'on a fait avec Monsieur Edem Dameilda, où on parle de la problématique de l'industrie de la seconde main de l'Europe vers l'Afrique. En réalité, c'est que, comme vous parliez également du fait que, par essence, certes, c'est un modèle linéaire, mais on est allé encore plus loin. C'est-à-dire que là, on est sur un modèle jetable, où les vêtements sont faits par essence pour ne pas être reportés. Donc, lorsque l'on trie et qu'on doit, entre guillemets, envoyer ce qu'on appelle la crème dans les pays qu'on appelle encore une fois émergents, la réalité, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins de textiles qui sont portables de façon régulière, d'autant plus que ce n'est pas forcément adapté aux différents climats. Donc on a aujourd'hui un véritable effet ciseau. On a trop de vêtements qu'on n'arrive plus à écouler. Donc le recyclage, encore une fois, devient un élément essentiel.
Exact. Avec le phénomène récent qui vient de se produire pour le marché africain, puisque vous le notiez, le marché de la seconde main est plus cher que le t-shirt qui vient de chez Chine ou chez Timou, parce que le modèle chinois a de la surproduction qu'il a besoin d'écouler ailleurs. Et donc vous êtes dans un modèle qui est paradoxal, parce que même le deuxième main devient plus cher que le modèle neuf. Ça a aussi une conséquence, c'est que ce qui vous est proposé a une qualité qui devient de plus en plus faible.
Exact.
Et donc qui nécessite un renouvellement. Donc il faut se poser la question dans un modèle d'économie circulaire, et c'est l'enjeu des directives européennes, c'est de se dire comment je réinstalle un modèle circulaire qui puisse générer un meilleur design, une éco-conception, et proposer aux consommateurs un produit de meilleure qualité, en essayant de le rendre toujours affordable en anglais, donc qui puisse avoir un prix abordable et compétitif. Donc en fait, quand vous achetez un t-shirt sur une plateforme, moi, je ne vais pas les nommer, que vous achetez votre t-shirt à 3 ou 4 euros, bah, vous n'en avez que pour 3 ou 4 euros. Et on comprend que au bout de deux lavages, il n'a plus de couleur, et que quand il a été porté trois fois, il commence à se déformer sur les coudes et il ne se tient plus. Et donc, vous vous en séparez. Et c'est un modèle qui incite à une qualité médiocre. Et donc, ce qu'on essaye aujourd'hui de retrouver, c'est les valeurs et les vertus d'avoir des produits de qualité. Pas forcément très très cher, et c'est là qu'il faut aussi repartir à la base dans ce combat, de pouvoir proposer un produit de qualité à un prix abordable, qui soit compétitif et qui soit meilleur pour l'environnement.
Oui, parce que là il y a aussi beaucoup d'autres problématiques qu'il faut citer, c'est-à-dire que en réalité, il faut aussi parler du fait que le polyester n'est pas une matière qui n'est pas durable, c'est-à-dire que au sens vraiment purement qualitatif de quelque chose qui va être robuste, si on devait comparer le polyester à un chemisier en soie par exemple, le polyester va être plus durable, c'est-à-dire va être plus résistant. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas tellement sur la qualité au sens de ce qui va durer. La qualité, elle est au sens de ce qui a peut-être le moins d'impact. Ce qui a aussi, il faut qu'on parle des microplastiques puisque ça reste là la matière, la problématique là-dessus. Mais c'est aussi parce qu'il faut avoir en tête que c'est une matière fossile. Donc c'est-à-dire qu'elle est on peut la produire en...
Elle est finie.
Exactement. Et
donc, c'est bien que vous ayez cette approche aussi. C'est que notre mission, c'est de créer des possibilités infinies dans un monde fini. Donc, la méthodologie qui consiste à recycler dans un modèle circulaire par voie chimique offre cette possibilité infinie. C'est-à-dire que nous régénérons la molécule.
Alors justement, pourriez-vous différencier recyclage chimique et mécanique, pour qu'on puisse bien comprendre?
Donc, on l'a compris, le premier recyclage, c'est de réutiliser la matière pour la revendre et la réparer. Et donc ça, c'est le premier. 1% dans le monde est recyclé comme ça. Donc on voit qu'on est loin. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un recyclage mécanique. Qu'est-ce que c'est un recyclage mécanique? Ça consiste à essayer de séparer les fibres avec des machines et pouvoir... refiler, obtenir une longueur de fil suffisante pour pouvoir recréer un fil et refaire une bobine de fil et donc refaire un tissu à partir de là.
Est-ce que petit aparté, pourriez-vous dire pourquoi la longueur de fibre est essentielle pour un bon textile?
Pour avoir une fibre qui est ce qu'on appelle une tensile tenst, qui soit suffisante pour pouvoir résister à l'allongement, à l'élongation donc, et puis qui puisse être manipulable dans les métiers à tisser.
Parce que sinon, un textile qui est recyclé mais qui a une fibre trop courte, en fait, il ne sert plus à rien en termes d'usage.
Déjà, ce n'est pas qu'il ne sert plus à rien, mais il va devoir être aggloméré avec beaucoup plus de fibres. Donc, vous n'allez pas avoir une fibre d'excellente qualité au visuel. Elle va être un petit peu brute. Et donc, c'est pour ça que la problématique qu'on aujourd'hui rencontre le mécanique, dans les fibres coton, en recycle mécanique par exemple, c'est que c'est plutôt assimilé par les marques, par les grands donneurs d'ordre, à un downcycling, donc c'est-à-dire à du recycle de moins bonne qualité que le produit d'origine. Dans le recycle chimique, on va aller vers un produit qui est régénéré, c'est-à-dire que votre molécule, on la nettoie, on ramasse du polymère au monomère, c'est-à-dire qu'on casse les chaînes et on nettoie les chaînes de façon à recréer un polymère de très très bonne qualité. Pourquoi on fait ça? Parce que, on obtient un produit final qui a une meilleure durabilité,
d'accord, là, au sens vraiment
de la solidité, et qui possède aussi une propension au micro-shedding, donc au microplastique que vous mentionnez tout à l'heure, qui est bien inférieur. Pourquoi? Parce que c'est quoi le phénomène du microplastique qu'on trouve aussi sur le coton?
Mais qu'on trouve globalement partout, en fait.
Partout, dans toutes les fibres.
Parce que, on parle encore une fois, la question des traitements et de l'embellissement, c'est un vrai enjeu, mais...
Voilà. Pourquoi on trouve ce phénomène? C'est que tous les polyesters ne sont pas équivalents. Donc, il y en a qui sont faits proprement, puis il y en a d'autres qui sont faits moins bien. Un polyester qui est fait moins bien, vous prenez moins d'attention à ne pas le chauffer de trop dans le processus de fabrication, à ne pas créer trop de réactions parasites. Tout ça, ça prend du temps, ça prend donc de la valeur, et que quand vous voulez produire au moins bon coût, vous ne faites pas ça.
Et la raison pour laquelle le polyester est aussi massif. Donc on se doute bien
qu'il y a... Voilà, donc on se doute bien qu'il y a deux polyesters ou trois polyesters de différentes qualités. Et les grandes marques ne se trompent pas. D'accord ? Quand elles veulent du très très bon polyester, elles vont le payer plus cher et elles le savent pourquoi. Maintenant, dans le processus, comme on régénère la molécule, on la débarrasse des espèces de chaînes qui sont abîmées. Voyez-vous ? Et c'est ces chaînes abîmées qui vont créer cette propension au plastique à se détacher pendant les lavages. D'accord ? Et donc à se retrouver dans les eaux de lavage et donc dans les eaux de traitement. Et c'est ça qui fait que... Et donc de l'eau de traitement, ça passe dans la rivière et dans la rivière, ça passe dans la fertilisation des sols et ça passe dans les animaux et ça passe dans votre nourriture. Donc, ou dans les cultures. Et donc c'est ça la problématique du micro-shedding, du microplastique. Et donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de régénérer la molécule et d'avoir un phénomène de micro-shedding, donc de microplastique, qui est bien inférieur au modèle normal. Et donc, dans ce sens, on considère qu'on produit une fibre de meilleure qualité. Ça, c'est le recyclage chimique.
Ça, c'est le résultat aussi.
Le résultat du recyclage chimique. Un recyclage mécanique, il y a un intermédiaire que l'on appelle le recyclage thermomécanique. C'est-à-dire que vous allez séparer vos fibres et puis vous allez reprendre le plastique, donc le polyester, puis vous allez le fondre. D'accord ? Donc vous obtenez une pâte liquide. Et cette pâte liquide... C'est du polyester encore, donc c'est la chaîne. Elle n'est pas de très bonne qualité, vous ne pouvez pas en faire grand-chose dans le textile. Parce que dès que vous le mettez à le filer, il casse. Donc l'industrie a trouvé le moyen, c'est que dans le thermomécanique, elle va mélanger cette fibre polyester qu'elle a chauffée et fondue avec un polyester vierge qu'elle a fabriqué. Et donc elle va le mélanger avec des ratios en général de l'ordre de 25% de fibres recyclées et 75% de ratio vierge. Et en faisant ça, elle va essayer de restaurer une qualité qui va permettre de rentrer dans le modèle de la supply chain, donc de la chaîne de valeur du textile, pour pouvoir être filé et travailler. Et donc, la différence principale, c'est que c'est un modèle qui purement s'adosse aux fossiles, puisqu'il faut du fossile pour recréer de la matière. Deuxièmement, la matière est de moins bonne qualité, beaucoup d'imperfections, donc toujours du polyester de très mauvaise qualité. Et c'est ce que vous évoquiez aussi à un moment donné, entre la boucle ouverte et la boucle fermée. Le plus facile en thermomécanique aujourd'hui, c'est la bouteille.
Voilà. Alors, justement, autre élément qu'on va clarifier avant d'aller plus profondément sur les questions, c'est très important de parler de ces questions de boucle ouverte et boucle fermée. Et avant d'y aller, je précise par ailleurs que, ici, encore une fois, on parle bien du polyester. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on ne parlera pas du recyclage de matières naturelles, etc., où là, c'est d'autres enjeux, parce que finalement, la problématique du polyester, c'est... Enfin, du polyester recyclé, c'est moins une question de durabilité environnementale que vraiment de circularité. Parce que si on parle de durabilité environnementale, on verra que le meilleur choix n'est pas forcément le polyester recyclé.
On peut en parler.
Mais il y a certaines études qui prouvent, notamment sur le recyclage chimique, que ça a aussi un vrai impact comparé, par exemple, à une matière naturelle vierge. Et encore, ça dépend laquelle, parce que si on parle du coton, là, c'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas, je veux dire, il n'y a pas de fibre qui, par essence, est plus vertueuse. En fait, ça dépend de son usage, de sa fin, de comment est-ce qu'on va la traiter, etc., etc. Donc, encore une fois, l'éco-conception, ce n'est pas si facile que ça. Mais pour reprendre ces questions de boucle ouverte et boucle fermée, justement, pourquoi c'est un élément essentiel? Et là, on va notamment parler des bouteilles PET, etc. Parce que ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que même si vous voyez sur les étiquettes de plus en plus polyester recyclé, tout ça, en réalité, seulement 1% des fibres qui sont sur le marché sont aujourd'hui recyclées. Et encore, c'est avec majoritairement 98% des bouteilles en PET. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est en boucle ouverte. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de vêtements polyester qu'on reprend, qu'on fait fondre et qu'on refait de la fibre. C'est pas aussi simple. Donc, pourquoi cette problématique de boucle ouverte et boucle fermée et comment la définir?
Pourquoi on marche sur la tête, en fait. On marche sur la tête, pourquoi? Parce que quand vous prenez une bouteille en plastique et que vous la consacrez à recréer une fibre textile, et que cette fibre textile va dans un vêtement qui va aller à la poubelle, en fait, vous êtes obligé de recréer une bouteille en fossile pour remplacer la bouteille que vous auriez pu recycler. Donc en fait, vous êtes avec un modèle linéaire qui pense qu'il recycle, en fait, vous continuez à alimenter le modèle linéaire Et vous êtes un promoteur de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours avancer avec des bouteilles en plastique.
Ça coupe le pied en plus de ça à l'industrie agroalimentaire.
Alors voilà. Donc les gens qui sont dans l'industrie de la bouteille, on leur impose des règles. On dit, il faut que vous mettiez tant de produits recyclés dans votre bouteille. Donc ils disent, bah oui, mais alors il faut garder la bouteille à la bouteille. Garder le packaging au packaging. Donc le pot de yaourt vers le pot de yaourt, tout au moins vers le packaging. Et le textile vers le textile. Et donc, à partir de là, on va essayer de recréer des filières. Et donc, ça, c'est la législation qui va pouvoir le dire. Donc, et l'éducation du consommateur. Le consommateur est un petit peu aveuglé. Il pense qu'il fait une bonne action, mais en fait, pas du tout. Il n'a pas fait du greenwashing, si on peut dire. Mais quelque part, on l'a trompé. On l'a trompé. On lui a dit que c'était bien, mais en fait, c'est pas bien. C'est un pis-aller. Ça peut marcher, mais c'est pas la solution aujourd'hui au problème. Donc, nous, ce qu'on promeut, c'est une boucle fermée quand c'est possible.
Alors, boucle fermée, qu'est-ce que c'est ? Et aussi important de parler de pourquoi, aujourd'hui, on n'arrive pas très bien à faire de la boucle fermée. Important de parler aussi des questions des colorants. Parce que les bouteilles qu'on prend, ce n'est pas n'importe quelle bouteille, c'est des bouteilles transparentes aussi. Parce qu'il faut expliquer le pourquoi du comment.
Voilà. Donc, pour aller dans le modèle du textile, il faut une bouteille qui soit propre et qui soit pas de couleur. Donc, vous éliminez déjà toutes les bouteilles qui sont couleur dont on ne sait pas quoi faire. Et même dans le recycle, les bouteilles de couleur vont pas avoir une valeur très importante. On va faire des pots de fleurs avec.
Ça, c'est pour des questions de teinture.
De teinture. Et donc, enlever la couleur de ces modèles-là est compliqué et coûte. Et donc, il faut être conscient de tout ça. Maintenant, la problématique de la couleur, c'est une problématique, moi je pense, dans le textile, qui est une problématique qui est économique. Les technologies sont là pour pouvoir extraire les couleurs de la fibre. C'est plus difficile d'extraire la couleur des fibres pour du coton, où c'est différent, on va dire plus difficile. Les teintures du coton sont différentes des teintures du plastique, du PET. Donc déjà, la molécule n'est pas tout à fait la même. Donc ce n'est pas les mêmes procédés. Donc ça prend un peu plus d'effort. Ensuite, si vous l'enlevez, il faut la séparer et il faut la retraiter. Et donc elle va avoir un coût. Et donc c'est toujours pareil. Le coût est abordable pour l'industriel à se dire, bah, écoutez, je vais plutôt utiliser des couleurs, des teintures recyclées que des teintures non recyclées.
Vous savez, j'imagine qu'un de vos gros enjeux, c'est aussi la mise à l'échelle pour l'industrie.
Exactement. Voilà. Donc, vous mentionnez différents types de fibres. Avec le polyester, on peut être à l'échelle industrielle. Donc, nous, on est à l'échelle industrielle. Donc, on a besoin de beaucoup de matière en entrant pour pouvoir avoir des usines qui puissent être compétitives, donc avoir de la taille. C'est la problématique d'un industriel, c'est d'atteindre une taille critique pour pouvoir diminuer ses coûts et offrir un produit qui soit compétitif sur le marché.
Les questions d'économie d'échelle. Et donc, pour reprendre ces questions de boucle fermée, vous, comment est-ce que vous y travaillez ?
Alors, pour travailler en boucle fermée, la première question qui se pose, c'est comment on définit sa traçabilité ? Donc, la traçabilité, c'est un phénomène important. Et aujourd'hui, jusqu'à la porte de l'usine de Rijou, on est capable de définir un modèle de traçabilité qui soit ce qu'on appellerait du début à la fin.
Et ça, c'est pas une mince affaire déjà.
Donc voilà. Donc, vous vous dites, aujourd'hui, moi, consommateur, je dépose mon paquet de textile dans une benne qui est au coin de chez moi. Et donc, il y a un collecteur qui va venir la prendre. Donc, ce collecteur va pouvoir tracer, va commencer à identifier l'endroit où il a pris ce textile, donc au coin de la rue Michel, et dans quelle agglomération, et dans quelle région, et dans quel pays.
Vous avez une base de données intégrée
Et donc, on travaille avec nos partenaires collecteurs et trieurs.
D'accord.
Une fois qu'elle rentre dans le processus industriel, il faut aussi être capable de savoir quel lot a été utilisé et quel lot a été fabriqué. On est un peu dans le modèle de la nourriture, par exemple, vous avez des lots, vous êtes identifié. Là où ça se complique, c'est que au bout de la chaîne, vous avez des marques. Les marques, elles, fabriquent de manière globale. Donc, elles ne vont pas forcément prendre votre fibre, la mettre dans un t-shirt et vous proposer le t-shirt et vous dire ça contient la fibre qui vient du coin de la benne qui est là-bas.
Mais elles vont être obligées de le faire. Ça prend du temps.
Ouais. Donc, ça va prendre du temps, mais c'est compliqué pour elles. Donc, elles ont deux approches. Une approche qui est globalisée, et donc c'est le bilan matière. C'est quoi le bilan matière ? C'est de dire, moi, marque A, j'achète par exemple 100 tonnes de polyester sur le marché. sur ces 100 tonnes, j'en ai 90 qui sont fossiles et 10 qui sont recyclés. Donc j'ai la preuve d'achat des 90 et des 10. Donc j'intègre 10% de recyclage dans ma production. Ça, c'est au niveau du bilan matière, c'est global. Si vous dites sur le t-shirt, j'ai mis 10% de produits recyclés, mais qu'en fait, vous ne savez pas si dans le t-shirt, il y a du produit recyclé ou pas, c'est la problématique des marques. Qu'est-ce qu'elles donnent comme information au consommateur et qu'est-ce qu'elles lui donnent en termes de réalité? Le consommateur, il n'est pas dupe. S'il achète un produit qui dit qu'il y a 10% de produits recyclés, mais qu'en fait, il y en a zéro parce que les 10 se retrouvent sur un autre produit, sur un autre t-shirt, parce que la marque a travaillé comme ça, ça complique le problème de la traçabilité.
Et puis, encore une fois, donc, pour la question de boucle fermée aussi, c'est qu'est-ce qu'on appelle recyclé. Donc, à partir de cette question de traçabilité, comment est-ce qu'après, vous, vous travaillez pour, là d'un point de vue, on va dire, plus technique, là, en l'occurrence, pour vraiment travailler Enfin, à partir du moment où vous avez une première fibre qui va rentrer, vous arrivez à l'identifier, avoir la traçabilité, etc. Comment vous arrivez, vous, à prendre en charge ces problématiques de dépolymération, si je le prononce bien, ces questions aussi donc, de teinture, etc. Et comment vous faites concrètement pour réussir, à partir d'une fibre déjà polyester, à en produire une nouvelle?
Ok. Donc, on revient aux matériaux d'origine. Donc, le polyester. Donc, vous avez une fibre qui provient d'un vêtement. Faut s'empêcher d'avoir l'image du vêtement qui va dans la chaîne de production. Et à un moment donné, votre vêtement, il va être complètement déchiqueté. Et donc, il va se retrouver, mais il a plus la trace du vêtement d'origine. C'est une fibre. Donc, on passe d'un vêtement qui est identifiable à une fibre qui devient non identifiable en tant que telle, en provenance. Donc, il faut lui trouver son lien entre son origine et son état. Et donc ça, ce qu'on travaille, on travaille avec nos partenaires, et donc on essaye de développer un modèle un peu similaire à la blockchain, vous voyez, donc pour avoir certificat d'origine. Et puis ensuite, vous rentrez dans le processus de transformation. Et là, dans un processus industriel de transformation, il faut pouvoir garder l'origine encore de la fibre depuis son entrée jusqu'à sa transformation en petites pellettes, c'est-à-dire des petits chips, des petits ronds, qui vont rentrer dans un grand sac. Et c'est ça qui va être refondu pour donner une fibre nouvelle. Et donc, pour cette fibre nouvelle, il faut lui délivrer ce qu'on appellerait un certificat d'origine. Et c'est ce que l'Europe a commencé à mettre en place avec un digital passport.
Oui,
donc, le PET que je produis possédera son digital passport, qui va faire une bobine de fil, qui possédera son digital passport, et c'est là que vous essayez de bâtir la chaîne de traçabilité.
Et donc, comment vous arrivez à travailler, je suis désolée, je reviens encore dessus, hein, mais sur la boucle fermée, parce qu'on a vu que c'était compliqué. Mmh. Et donc, comment vous levez ces verrous-là? Et je pense notamment, et là, je reviens à la problématique des fibres mélangées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plus grande majorité des vêtements, à part si on parle de plateformes telles que Shein, Temu, etc., ne sont pas du 100% polyester. Ça va être, comme vous l'avez dit, mélangé avec de la laine, de l'élastane, du coton, de la soie, etc. Et ça pose problème parce que comment on fait pour recycler des laines qui sont des textiles qui sont multifibres? Il y a ça, il y a la problématique des teintures. Donc comment
voilà,
vous travaillez?
On rentre un peu dans le technique.
Comment vous y arrivez?
Voilà. Donc vous rentrez avec une fibre qui est polymatière, on va dire. Donc il y a du coton, de la viscose, de l'élastane, des couleurs et du polyester. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer par un processus chimique, on va dire, de dissolution. Attraper la fibre solide, qu'est le coton, d'accord, et la viscose. Et donc, vous allez attraper cette fibre à l'intérieur de toute la trame. Donc, il faut vous imaginer, vous savez, un filet, un espèce de filet, où dedans, une fois, c'est de la fibre coton, une autre fois, c'est de la fibre polyester, et vous essayez de définir tout ça. Mécaniquement, vous n'y arrivez pas. Donc, chimiquement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand vous avez votre trame de tissu, le procédé chimique va précipiter, donc c'est un processus chimique, il va précipiter le polyester, il va le mettre en solution. Et donc, votre polyester va disparaître dans la solution.
Un peu comme distiller de l'alcool, quoi.
Exactement, pas tout à fait, mais c'est l'image. Et donc, vous allez transférer votre polyester qui était solide, vous l'avez transféré par dissolution dans un modèle où il devient liquide. Et vous avez laissé intacte votre fibre de coton, qui reste solide, que vous pouvez retravailler dans la chaîne de valeur du coton.
Ah oui, d'accord. Donc, vous faites aussi des coproduits.
Exactement. D'accord. Donc, en attrapant le coton, vous avez aussi attrapé la fibre viscose en même temps. Et vous avez aussi attrapé les colorants. Parce que les colorants sont un composé chimique qui vient avec le coton parce qu'il reste attaché sur le solvant.
Alors, avoir en tête que donc même toute fibre naturelle est traitée de façon non naturelle après. Hein, ça, c'est important.
Voilà. Donc, une fois que vous avez donc votre coton et votre substrat, élastane, couleur, teinture, PFAS aussi, puisqu'il y a du PFAS dans les textiles, et ben vous allez devoir vous dire, je vais essayer de ma phase liquide, je vais essayer d'extraire les colorants, d'extraire l'élastane. Tout ça, ça n'a pas les mêmes masses volumiques. Et donc, par centrifugation, par filtration, vous arrivez à mécaniquement, chimiquement, à extraire chaque composant. Ce qui coûte cher.
Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, mais on en reviendra.
Ce qui coûte cher, mais c'est l'enjeu de se dire, si c'est abordable, c'est comme ça qu'il faut faire. Si ce n'est pas abordable, par exemple, vous ne savez pas quoi faire du PFAS. Mmh. Donc, l'avantage d'un procédé chimique, c'est que, bien souvent, au lieu de disperser la matière, ça la concentre. Donc, votre PFAS, au lieu de partir dans les lavages, il se concentre et donc il devient un liquide concentré. Et donc, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Il y a des procédés pour éliminer ce PFAS, tels des procédés type pyrolytique qui permettent de brûler jusqu'aux radicaux ce genre de matière et de la faire disparaître.
Donc là, ce que vous me dites, c'est que d'un point de vue technique, on a toute la possibilité de travailler sur de la boucle fermée et de répondre aux problématiques de multifibres, de teintures, etc. Mais que le vrai problème, c'est le coût en fait, de tous ces processus.
Voilà, donc technologiquement, il y a ce qu'il faut aujourd'hui. Et il y a beaucoup de technologies qui existent. Est-ce qu'elles sont économiques? C'est là qu'il faut travailler. Est-ce qu'elles sont à la bonne taille? C'est là aussi qu'un industriel doit travailler. Quels sont les freins à ce genre de développement? Le premier frein, c'est être sûr que votre technologie est bien transférable à l'échelle industrielle. Donc vous avez une petite unité, puis vous vous dites, j'en construis une qui est 100 fois plus grosse, est-ce que ça va marcher? Donc ça, c'est le premier enjeu. Une fois que vous avez passé cet enjeu-là, vous vous dites, mais si je construis une usine, c'est pas un tuyau que je branche à l'entrée de l'usine, il faut l'alimenter avec du flux. Donc il faut que vous ayez de créer un écosystème avec les gens qui collectent, exact, les gens qui trient, et ça c'est votre premier écueil, pour pouvoir générer les volumes dont vous avez besoin pour que du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, il y ait un flux qui rentre dans votre usine. Et puis ensuite, vous avez la dernière problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous achète votre produit.
Oui.
Et donc il faut qu'il y ait des marques qui s'engagent dans la démarche. Donc les marques vont s'engager dans la démarche pour deux raisons. Soit parce qu'il y a un encadrement législatif.
C'est majoritairement... Enfin, on travaille beaucoup sur ces questions de recyclage, etc.
Voilà, donc c'est les West Frame Directives européennes. C'est la REP, la responsabilité élargie du producteur en France. C'est les lois AGEC en France, qui étaient précurseurs. Hein, ça fait 7 à 8 ans que ça existe. Et donc, il y a un cadre législatif qui va dire à la marque, vous êtes responsable. Et donc, il y a des éco-organismes qui vont collecter de l'argent pour pouvoir soutenir la filière.
Refashion, etc.
Voilà, donc Refashion. Et la responsabilité de la marque, c'est de se dire, je suis responsable pour disposer de ce que j'ai créé, certes, mais ma responsabilité aussi, c'est de prendre ce produit, de l'intégrer dans mon offre au consommateur. Le consommateur, il a envie de produire recyclé. Ce qu'il faut, c'est que je suis capable de lui proposer le meilleur produit, avec la meilleure qualité, au meilleur prix. Mmh. Et donc, quand vous avez rejoint la technologie, la partie amont, et la partie aval, qui sont les marques qui vont vous acheter le produit, vous avez presque fait l'ensemble du chemin. Le dernier bout de chemin à faire, c'est de trouver l'investisseur qui va mettre l'argent.
Ça, c'est le parcours du combattant.
Voilà. Et donc, il faut créer la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que la marque puisse se dire, écoutez, moi, je m'engage à acheter tel tonnage pendant X années pour pouvoir les mettre dans mes produits. Donc, c'est un changement de modèle.
Oui, d'autant plus qu'on a la même problématique sur les fibres naturelles. Je pense par exemple à la filière du lin, à la filière de la laine, qui ont le même combat. Mais là, c'est aussi d'un point de vue de souveraineté nationale, dans le sens où il y a un véritable enjeu de restructurer des filières au niveau national. Et là, ils ont la même problématique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les marques puissent s'engager. Mais là, pour le coup, ça coûte super cher. Donc, on parle encore une fois aux mêmes acteurs du luxe et tout ça. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le problème, c'est la concurrence face au prix extrêmement bas du polyester vierge produit encore massivement en Chine. Et là, J'y pensais notamment à ce qui se passe en Iran, dans le détroit d'Ormuz, où en fait il y a aussi beaucoup d'impact. Enfin, là, ça leur change, mais ça pose question aussi de se dire, mais finalement, est-ce que ce serait pas aussi intéressant de relocaliser pour être moins dépendant de ces variations de prix? Mais de toute façon, c'était tellement bas le polyester que.
Oui, bah, vous allez voir si ça va continuer à rester bas. Pourquoi c'est bas? 60% du polyester dans le monde est fabriqué en Chine. Est-ce que la Chine est un producteur de pétrole? Non. Elle importe.
D'où cette question par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà.
Par contre, la Chine a créé une capacité de production qui est excédentaire.
C'est ça.
Donc, elle est capable d'inonder le marché à des prix dérisoires. Et donc, c'est comme ça qu'elle tient le marché aujourd'hui. Malgré tout, elle est rendue dans un paradoxe, c'est qu'elle se fait concurrence à elle-même.
Tout à fait.
D'accord. Donc, elle est obligée de fermer des usines pour réguler sa capacité. Et donc, de pouvoir proposer un prix d'ajustement marché où tout le monde gagne sa vie. Aujourd'hui, les marges sont négatives pour les producteurs de polyester dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut travailler avec des marges négatives très longtemps? Rarement. Sauf dans des systèmes qui sont subventionnés. Mais là, c'est le paradoxe. On subventionne le modèle pour que l'autre continue à produire. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc, il faut se poser la question, comment on fait évoluer ce modèle? On fait évoluer ce modèle en recréant une maîtrise, de son marché. Donc, l'Europe a laissé le modèle se déréguler. N'importe qui peut venir et vendre n'importe quoi sur le marché.
Je vous invite à écouter l'épisode avec Gilles Maviel de l'Observatoire économique. On a beaucoup parlé de ce sujet, mais allez-y.
Voilà. Donc, la dérégulation du marché est un des facteurs qui a conduit à cette situation. Donc, il faut reprendre la main sur le marché.
Afin des accords multifiables, tout ça.
Exactement. Et puis, il faut aussi proposer aux consommateurs et proposer aux marques des modèles qui leur permettent de pouvoir continuer à croître, donc être une source de croissance pour eux, mais dans un modèle qui n'est pas celui qu'aujourd'hui elles connaissent. Celui qu'elles connaissent aujourd'hui, c'est un modèle qui consiste à vendre tous les jours plus, moins cher. D'accord ? Et donc, elles sont entraînées vers une pente glissante vers le bas. Donc, certaines marques disent, bah, c'est plus possible. On a atteint le bout de notre modèle. Donc, il faut qu'elles reconsidèrent leur modèle en se disant, est-ce qu'il y a des alternatives ? Oui, c'est ce qu'on appelle le nearshoring, c'est-à-dire de reconsidérer sa production localement. Est-ce que c'est possible avec le coût du travail ? Ben, il faut regarder ce qui est possible de ce qui ne l'est pas.
En France, non.
Alors, est-ce que il faut avoir une vision pays ? Question.
Et donc, bah, sincèrement, je ne pense pas, mais c'est la facilité du discours.
Voilà, donc l'Europe dit, ça serait déjà bien si on arrivait à reproduire un modèle nearshoring, c'est-à-dire localisé, dans Euromed, c'est-à-dire dans le bassin européen méditerranéen. Et le bassin européen méditerranéen, c'est quoi? C'est la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et la Turquie.
Et ça cause d'autres problématiques, notamment sur le fait que du coup, il y a de la concurrence aussi par rapport, encore une fois, au marché du textile, où en France, c'est très problématique parce que le coût du travail est extrêmement cher. Et donc, on voit quand même bien que la filière, c'est... Voilà.
Voilà. Donc, le coût du travail est extrêmement cher. Donc, il faut aussi penser automatisation, machine. C'est ce qu'a fait Auchan quand il a créé son usine de fabrication de jeans dans le nord de la France. Il a créé une usine automatisée. Et qui produit des jeans de qualité à des prix concurrentiels de ceux de la Chine. C'est un exemple. Je ne promeux pas forcément ce modèle de mécanisation, mais c'est aussi une façon de regarder les choses. C'est un modèle, le textile, qui est quand même un peu bizarre. À chaque fois que vous faites une opération, vous doublez le prix. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le modèle. Donc, quand vous partez du t-shirt à l'origine, le t-shirt à l'origine contient du polyester. Le polyester, on va prendre un exemple. T-shirt qui est vendu 10 euros dans la boutique. Ok, t-shirt 10 euros. Au départ...
C'est déjà surréaliste, mais...
Ok, bon, y a des t-shirts qui valent 100 euros.
Non, mais sur 10 euros, c'est très peu cher pour un t-shirt.
Pour un t-shirt. Vous regardez le prix du polyester dans le t-shirt, c'est quelques dizaines de centimes. Vous dites 10 euros, 10 centimes. Ensuite, vous regardez... Le prix du polyester, il a été filé, il a été mis en bobine, et puis ensuite il a été tissé. Et vous regardez à chaque fois. La matière, c'est toujours la même, mais le travail, lui, vaut 1, et ensuite sur la phase suivante, il vaut 2, il vaut 4, il vaut 6, il vaut 12, etc., etc. Et donc, quand vous additionnez tous les coûts, ben vous arrivez à un produit qui vaut 10 euros alors que le coût de la matière. Donc quand vous avez des discours qui vous disent « Ah, oh, mais c'est très trop cher, le produit polyester est trop cher, ramenons-le au prix d'origine.
Oui.
Et donc,
après, vous, vous avez un discours qui n'est pas social. Donc, c'est pas, enfin, vos questions à vous, elles ne sont pas sur ce sujet. Donc, c'est, sincèrement, c'est un tout autre enjeu. Mais c'est pour ça, n'allons pas trop profondément là-dedans, parce qu'on va changer de sujet. Mais je vois ce que vous voulez dire. Okay. C'est comme, par exemple, sur les questions de la maille, etc., où aujourd'hui, en fait, on produit en maille dans des espèces d'énormes machines qui sont circulaires, etc. Et il n'y a pas de main humaine qui intervient là-dedans. Donc, je vois ce que vous voulez dire. Mais pour revenir à ces questions-là de la matière polyester et de ses problématiques. Je voudrais revenir sur un des premiers points que vous avez évoqué, qui est la matière première. Comment on fait pour avoir des intrants qui soient de bonne qualité, suffisants pour les traiter, pour les trier, etc. D'où ils viennent, etc. Enfin, pour cette question du passage à l'échelle ou de la scalability, comment vous faites pour répondre et pour lever ce levier-là? Parce qu'il est vraiment essentiel, surtout par rapport à, comme on a parlé de cette notion de perte de qualité, etc. Est-ce que les gens jettent? Est-ce que les gens trient? Comment ça se passe pour avoir suffisamment de matières premières?
L'enjeu, il est que la réalité... 70% des fibres textiles partent à la poubelle.
C'est ça.
D'accord ? Et se retrouvent dans vos ordures ménagères. Pourquoi ? Parce que bien souvent, vous n'avez pas, vous, en tant que consommateur, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'en fais ? Donc, si vous n'avez pas une collecte qui est disponible au coin de chez vous, rarement vous allez faire 2 km avec votre paquet de textiles sur le bras, vous allez le mettre à la poubelle.
Ou alors vous êtes un beau parisien.
Mais... naturellement, vous allez le mettre à la poubelle. Si vous avez conscience que c'est important, le recycle, vous allez prendre les meilleurs articles que vous avez dans votre garde-robe, vous allez les laver, puis vous allez les porter chez Emmaüs, qui lui va les trier. Il va en trier 10%. Le reste va partir en seconde main en Afrique. Voilà comment c'est le modèle. Donc, ce que les gens veulent pas savoir, c'est ce que maintenant ils réalisent. Donc, il y a une nécessité d'avoir une transparence. 70% part dans l'ordure ménagère. La majorité finit à l'incinérateur en France, au mieux, à l'enfouissement, au pire. L'enfouissement, le pire, c'est que vous retrouvez vos déchets plastiques dans la nappe, dans les sols, par infiltration, et ça continue.
Les questions de microplastiques, c'est d'ailleurs pour ça aussi que la loi AGEC existe, hein, normalement.
Exactement. Donc, il faut avoir conscience, donc il faut résoudre ce problème. Donc, pour résoudre ce problème, l'Europe a dit, il faut installer... des collectes qui soient ségrégées, c'est-à-dire des collectes partagées, et que l'identification soit claire pour le consommateur.
Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui, il y a des bennes relais qui ferment.
Oui, pourquoi elles ferment? Parce que déjà, un, il n'y en a pas suffisamment. Et pourquoi? Parce qu'elles sont dirigées vers des flux qui ne sont pas capables, des exutoires, qui ne sont pas capables de prendre ces volumes-là. Donc la problématique qu'a aujourd'hui l'État, c'est de se dire, si je veux faire augmenter la collecte, et donc diriger des flux qui aujourd'hui partent dans les ordures ménagères vers une structure de tri organisée, il faut que je crée une filière qui puisse accepter, donc c'est l'œuf de la poule, s'il n'y a pas la structure, bah, il n'y a pas d'exutoire, s'il n'y a pas d'exutoire, il n'y a pas de structure.
Et c'est pour ça que la circularité, c'est un énorme enjeu pour l'Europe actuellement.
Ouais. Exactement, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien de se dire que je vais exporter mes tissus, mes textiles en Chine pour refaire des textiles recyclés qui vont revenir sur mon marché et retomber dans la poubelle que je vais renvoyer en Chine?
C'est une problématique qui est aussi similaire à ce qu'on peut retrouver sur le lin, où il y a quand même une énorme aberration, où 70% du lin mondial est produit en Normandie, va être filé ailleurs et revient en France, et on achète du lin français qui n'a pas été entièrement fait en France.
Donc la valeur ne s'est pas créée là. Donc on se dit... de plus en plus, nos déchets textiles ont une valeur. Et donc, c'est aussi le moyen de reprendre une souveraineté sur la matière première, considérée comme une matière première, le PET, donc le polyester. Et à un prix qui, lui, n'est plus dépendant du détroit d'Ormuz. Quelque part, il est produit localement avec les déchets qu'on a consommés. Et donc, on a recréé, et l'enjeu, c'est d'un déchet qui vaut rien, de recréer une valeur qui va pouvoir être mise dans l'économie. Et donc, ce qu'on appelle une économie circulaire.
Tout à fait.
Et donc, c'est l'enjeu qui est là.
Et alors, là, je suis désolée, mais il va falloir que je vous travaille un peu au corps sur cette question-là, puisque vous avez parlé d'incinération, etc. Et il y a des études Je pense notamment à un travail qui a été fait par, il me semble que c'est Changing Market, en tout cas c'est Textile to Textile Polyester, c'est une étude pour, qui vraiment travaille sur toute la question de justement ces problématiques de boucle fermée du polyester, et qui donc du coup parle du recyclage chimique et de son impact environnemental, parce que forcément il faut des matières, il faut utiliser des composés chimiques qui sont impactants, il faut utiliser la chaleur, etc. Et on se demande si finalement un polyester recyclé est moins impactant qu'une matière vierge. Alors je pense pas à par exemple du coton, mais parce que le coton c'est extrêmement polluant. Mais par exemple là, de la vicose Tencel ou Ecovero, etc. Donc c'est-à-dire une vicose qui est faite à partir de bulbes de cellulose et qui va être travaillée avec dans une boucle fermée qui utilise des composants chimiques mais qui vont être réutilisés dans la même boucle, donc qui a beaucoup moins d'impact. Et en fait on peut se dire finalement une fibre polyester, on se dit c'est super, c'est recyclé, donc en fait ça veut dire qu'on n'a rien produit de nouveau, etc., que c'est du 100% découplage. Mais en fait non, parce que ça veut juste dire qu'on règle un problème qui est qu'il y a beaucoup trop de déchets, mais on règle pas forcément le problème de l'impact. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est-à-dire que il faut comprendre que quand on est consommateur et qu'on achète du polyester recyclé, c'est pas une fibre qui a moins d'impact forcément, mais c'est une fille qui règle tous les problèmes qu'on a énoncés là, c'est-à-dire ces problèmes d'inondage du marché, de souveraineté, etc. Donc c'est d'autres problèmes qui sont réglés en fait. C'est pour ça que l'éco-conception, c'est pas si simple. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact environnemental de la pratique du recyclage chimique ?
L'impact environnemental de tout ce genre de procédé, il commence par une étude d'impact qui est, je dirais, en France, assez bien normalisée, c'est les ACV, et qui sont... aujourd'hui piloté par l'ADEME. Donc, il y a un cadre. Et donc, ça évite de raconter aussi n'importe quoi. Parce que il faut prendre des références qui soient reconnues dans le modèle environnemental. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans un mixte énergétique, je dirais classique, je ne vais pas prendre celui de la France qui est très peu carboné. Donc, quand vous utilisez l'électricité en France, vous avez peu d'origine carbone. Puisqu'on avait un fort pourcentage nucléaire. Donc si vous prenez une énergie mixte carbonée normale, on ne va pas prendre l'Allemagne parce qu'elle est très carbonée. On va prendre la Belgique ou la Hollande. Ce que les études montrent, c'est que si vous partez depuis le moment où le consommateur a jeté son textile dans la benne dédiée, jusqu'au moment où moi je l'ai produit pour en faire une nouvelle fibre, on a un taux d'abattement de CO2, ce qu'on appelle greenhouse gas emission équivalent, qui est de l'ordre de 50 à 70% moins d'émissions de CO2 par rapport à avoir créé une fibre vierge. Donc vous regardez la fibre fossile, d'origine fossile, vous l'extrayez du sol et vous bâtissez toute sa chaîne carbone en greenhouse gas emission, jusqu'au PET. Et vous regardez ce qui s'est passé depuis le consommateur cacheté, jusqu'à ce que moi, je reproduise une nouvelle fibre qui va faire un vêtement.
Et en prenant en compte la reverse logistique ?
Et vous prenez l'ensemble de la logistique assez. Il y a un camion qui a pris la benne, qui l'a emmené dans un tri. Il y a un trieur qui a utilisé une machine avec des bandes, des convoyeurs, donc consommer de l'électricité. Vous avez ensuite un camion qui a repris la balle de textile, qui l'a emmené dans mon usine. J'ai chauffé le produit, j'ai utilisé des pompes, j'ai utilisé l'énergie, j'ai utilisé des solvants. Donc tout ça, c'est une empreinte carbone. Et donc vous la consolidez. Et ce que vous montrez, c'est que quand vous prenez une tonne de PET produit avec du vierge fossile et une tonne produite avec du produit recyclé, vous avez 50 à 70% de CO2 d'émis en moins. Donc n'allons pas croire que la matière recyclée, c'est pas bien pour l'environnement. C'est bien pour l'environnement fondamentalement. Maintenant, il faut rester logique. Plus vous consommez, plus vous émettez du CO2.
De toute façon.
Donc, ce qu'il faut aussi, c'est coupler ça à une politique de moindre consommation, de rendre le consommateur moins addict à l'achat, à la consommation, plus consciencieux sur la qualité, plus regardant sur la qualité. Et est-ce qu'il vaut mieux s'acheter 10 t-shirts à 2 euros ou un t-shirt à 20 euros ?
C'est pour ça que là, votre argumentaire sur le t-shirt à 10 euros, il y a aussi la problématique du signal prix.
Exactement.
Si c'est moins cher, on a envie d'acheter plus, de facto. D'ailleurs, voilà. On voit bien aujourd'hui dans les questions d'étiquette environnementale que sur les questions de durabilité, le prix, c'est un des critères qui est calculé pour calculer la durabilité. Donc on voit bien que le signal prix a une importance.
Le signal prix a une importance. J'aime bien les discussions qui sont autour de, comme on a le Nutri-Score, on a introduit aussi le Textile Score. Alors, on peut parler de choses comme ça, mais il y a quelque part où on se met pour le consommateur dans une espèce d'éducation. Et le consommateur, il a plutôt tendance à se dire, quand il va dans un rayon, d'acheter plutôt du A que du E.
Oui, bah alors justement, ce qui est très compliqué sur les questions d'éco-conception quant à le textile, c'est que les éco-scores, c'est pas du A. Justement, il a été voulu que ce soit un coût en micro-point, etc. Et là, c'est un peu incompréhensible puisque c'est un peu comme si on... C'est plutôt comparable aux calories plus que qu'au Nutri-Score. Donc, mais on avance doucement, on avance.
On informe, mm-hmm. On rend les gens plus responsables dans leurs choix. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose. Vous avez un effet aussi sur ces recyclages chimiques qui compte aussi l'impact sur l'eau. Donc,
oui.
Il faut, dans certains procédés, il faut laver avec de l'eau. Donc, vous allez générer des traitements d'eau. Et donc, en générant des traitements d'eau, vous générez un impact sur l'environnement.
De toute façon, vous fonctionnez selon les 16 critères du PEF pour calculer.
Exactement. Voilà. Donc, l'air...
Product Environmental Footprint.
Voilà, exactement. Donc, on mesure son impact sur l'air, donc les émissions. Donc, nous, on a des procédés qui n'émettent pas d'émissions à l'atmosphère. On mesure son impact aussi sur les terres cultivables. Est-ce que vous avez des champs de 10 millions d'hectares ou est-ce que vous n'avez qu'un seul hectare pour une usine industrielle? On utilise très peu d'espace. Et ensuite, vous regardez votre impact sur l'eau, sur l'éco-habitat, la toxicité, etc.
Donc ça, c'est des questions aussi de base de données, là, clairement, ouais, voilà, de data. Là,
je dirais que quand vous mettez ça dans un cadre réglementaire, comme l'ADEME essaye de le faire, globalement, vous vous rendez compte que vous allez dans le bon sens. Vous produisez moins en achetant une matière recyclée que vous avez un impact sur l'environnement qui est moindre. Par contre, il faut acheter moins.
D'autant plus que la question sur le polyester, c'est qu'effectivement, ça reste une matière plastique, donc la question des microplastiques se pose, sauf que rappelons encore une fois que quand on achète du lin, de la soie, du coton et qu'on le lave, les matières pour l'ennoblir ne sont pas naturelles, donc la question du microplastique, c'est aussi la question des microfibres. C'est pas si simple encore une fois, donc il suffit pas juste de dire microplastique égale polyester, c'est un peu plus complexe, mais c'est un enjeu parce que les microplastiques sont pas pris en compte dans les critères du PEF aujourd'hui, donc on les calcule pas. Mais voilà, effectivement, en tout cas, selon les cadres réglementaires, vous nous dites aujourd'hui que ça reste plus intéressant.
Quoi. Voilà, c'est clair. Donc on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on émet moins de gaz à effet de serre en consommant une matière recyclée qu'en consommant une matière fossile. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, on en consomme encore de trop. Donc, il faut bouger le modèle. Donc, il faut ralentir cette surconsommation. Vous avez aujourd'hui en circulation dans nos armoires de quoi vêtir les 6 prochaines générations. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça dans vos armoires? Pas forcément.
Oui, voilà. Mais là, on arrive sur quelque chose qui n'est plus vraiment de votre ressort.
Non.
Et donc, pour terminer cet échange, puisque c'est le temps passe et puis c'est absolument passionnant d'aborder toutes ces questions, finalement, aujourd'hui, vous parlez de changer de modèle, etc. Quelle ambition a Redjou? À chaque fois, je ne sais pas si je prononce bien, mais quelles sont ses ambitions? Quel est son business model? Et quelle est un peu sa vision pour l'avenir et la place qu'elle veut prendre justement dans cet écosystème européen et peut-être aussi plus français?
Donc, on a ce qu'on appelle dans l'écosystème une vision holistique. Donc, on a tissé déjà énormément de partenariats entre les acteurs de l'amont. Donc, on va trouver des compagnies qui font de la collecte de déchets. On va trouver des recycleurs. Donc, NFT, par exemple, Nouvelle Fibre Textile en France en est un. Coléo en est un autre. Donc, ce sont des acteurs de la partie amont. Ces gens-là sont nécessaires, mais pas suffisants. Comme nous, on est nécessaire, mais pas suffisant. On tisse énormément de joint development agreements, donc des agréments de développement mutuels avec les marques, pour leur montrer que le produit et leur démontrer que le produit, il a de la valeur.
Vous travaillez avec des marques de luxe notamment?
Avec des marques de luxe ou des marques de sport ou des marques de retail. Lidl aussi est un grand pourvoyeur. Kiabi est un grand metteur en marché. Decathlon est un grand metteur en marché.
Decathlon, on ne le sait pas forcément, mais c'est toutes les marques de luxe le lornent un peu parce qu'ils sont toujours les premiers sur ces questions-là un peu plus techniques. Tout ça.
Oui, donc ils ont un programme de ce qu'on va dire de durabilité, de sustainabilité qui est dans leur ADN. Donc c'est un partenaire aussi. Donc ce marché, il est à la fois, pour Redjou, la complexité, c'est que vous avez adressé une problématique locale. Le déchet, il est local, il est à votre porte. Et vous avez des clients qui ont une vision globale.
D'où le problème de la reverse logistique dont je parlais.
Donc voilà, donc les marques aujourd'hui sont confrontées à deux types de situations. Surconsommation génère invendu. Donc les marques ont beaucoup d'invendus. Donc les invendus, c'est ce qu'on vous cache. On va dire quoi ? On va dire qu'une grande marque, on ne va pas les citer comme ça, ça va fâcher personne. Une grande marque va passer commande de 10 000 t-shirts en Asie. Okay ? Elle va passer commande environ 16 mois avant de pouvoir vendre le t-shirt. Parce qu'il faut le fabriquer, l'usine chinoise elle a son programme, etc. Et donc, elle va commander 10 000 t-shirts. Elle ne sait pas si elle va vendre 10 000 t-shirts. Elle va mettre en magasin ce qu'elle va mettre. En général, elle va vendre 3 à 4 000 t-shirts.
Même si avec l'IA, on essaye de travailler à des modèles prédictifs, mais c'est encore
balbutiant. Mais Chinois, dis-moi, vous fabriquez 3 000 t-shirts, c'est pas pour moi. Mmh. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de volume.
Voilà, ça, c'est un autre énorme problème.
Voilà. Et donc, la marque va acheter 10 000 t-shirts, sachant qu'elle va en vendre que 3 000. Donc, elle va faire son prix sur le prix d'achat des 10 000, qu'elle va racioter aux 3 000. Mais elle se retrouve avec 7 000 t-shirts sur les bras. Les 7 000 t-shirts, elle ne peut pas les donner à l'économie sociale et solidaire dans la seconde main, parce qu'il y a l'étiquette, ouais. Et là, ça crée une distorsion sur son marché à elle.
Exact.
Donc, elle va essayer de s'en débarrasser. Et c'est là qu'elle va payer des gens pour enlever les étiquettes, puis elle va s'en débarrasser sur la deuxième main, ou elle va les brûler.
Ce qui est illégal.
Ce qui devient illégal dans la loi.
Ouais.
Et donc, la vraie régulation... c'est de changer le modèle qui consiste à surfabriquer pour
exactement,
pouvoir
vendre.
Et donc, c'est au problème, elle est à la racine. Et donc, nous, on se bat aussi pour ne pas être la solution à la surconsommation. Et donc, on n'a pas du tout intégré ce modèle de surconsommation, enfin de surproduction dans notre traitement chimique. Donc, on ne contractualise pas avec les marques sur le rachat de leur matière.
Ok, ça c'est hyper important.
Donc ça c'est un choix qu'on fait, parce que c'est le choix de la difficulté, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de prendre un polyester qui est déjà bien sous un blister, de le préparer et de le remettre dans le modèle. On a décidé aussi de ne pas...
De ne pas jouer les rustines, quoi, de vraiment changer de modèle.
On veut changer de modèle. Donc on n'est pas là non plus, parce que notre technologie le permet, on ne s'est pas concentré sur du post-industriel, parce que là, on n'a pas parlé de ça,
oui,
mais
vrai, il y a ça aussi.
Le post-consommateur et le post-industriel. C'est quoi le post-consommateur ? Le post-consommateur, c'est ce qui a été consommé, donc qui a été vendu, acheté et jeté. Le post-industriel, c'est dans toute la phase de fabrication, quand vous avez un vêtement, des fois, il y a beaucoup de chutes.
C'est tout ce qui ne rencontre pas le client, en fait.
Tout ce qui ne rencontre pas le client.
Il n'y a pas de seconde vie.
Tout ce qui reste par terre autour de la machine.
Ce qui n'a pas encore eu de vie, finalement.
Exactement. Et donc, où se trouve le post-industriel ? Il se trouve sur les sites de fabrication. Et la majeure partie du post-industriel se trouve en Chine. Donc nous, on n'est pas là pour recycler le post-industriel chinois, qui s'occupe de leur post-industriel.
Et ça, vraiment, il faut le saluer, parce qu'aujourd'hui aussi, la majorité des actions qui sont faites à large échelle, c'est aussi sur le post-industriel, parce que c'est la choix de la facilité, encore une fois. Donc,
exactement.
Donc, c'est...
donc voilà, donc... Pourquoi Ridgy, on s'est engagé comme ça ? Parce qu'on a dit, le problème... c'est le déchet textile post-consommateur. Et il faut le remettre dans la filière post-consommateur textile tout textile.
Et ça va profiter du côté sexy du mot recyclabilité.
Ouais. Exactement. Donc, il faut être vigilant à ne pas, pas être du mauvais côté de la barrière, tout au moins, si je m'exprime comme ça. C'est pour ça que, très tôt, on a établi notre charte de valeur. Je veux dire, on veut être qui ? Et donc, nous, on veut être un acteur de la circularité, qui tacle le problème du déchet post-consommateur textile en full traçabilité avec un produit de qualité premium sur le marché offert aux marques.
Et donc imaginons, on est une marque et on veut pouvoir acheter votre textile.
Votre polyester.
Ouais,
donc on va contractualiser avec une marque. Donc ce qu'on va offrir à la marque, c'est un modèle sur lequel elle n'a pas l'habitude de travailler. Aujourd'hui, une marque achète du polyester le lundi pour... sa prochaine collection, ou sa prochaine saisonnalité. Aujourd'hui, une collection chez les grands modèles de fast fashion, c'est 50 collections par an, donc c'est une par semaine. On n'est plus à 4.
7000 modèles, 7000 références par jour.
Voilà. Donc, elle achète vraiment au réactif. Nous, on est un industriel, on a besoin de visibilité. Donc, on va lui dire, écoutez, nous, on est capable de vous donner un certain volume, à un certain prix, pendant un certain temps. Et donc, on va contractualiser et on va vous dire... j'ai une usine qui fabrique 40 000 tonnes de polyester, je peux vous en donner 10 000 à tel prix pendant 5 ans ou pendant 7 ans. Donc vous devez vous engager à m'acheter 10 000 pendant 5 ans ou 7 ans à tel prix. Ça, c'est mon engagement. La marque dit, OK, j'achète combien par an ? Bah, j'achète 200 000 tonnes de fossiles aujourd'hui. Donc je viens pour lui dire, contractualisons sur la durée avec 10 000 tonnes. Quel est votre risque ? Il n'y en a pas. Par contre, il faut que vous changiez votre modèle. Et donc, ça, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Mais de manière miroir, je vais dire à mon trieur et mon collecteur, je suis capable de m'engager à vous acheter tel volume, moi aussi pendant 7 ans, à tel prix. Donc vous êtes capable d'avoir la visibilité suffisante pour investir dans vos gens, pour investir dans vos machines, et d'asseoir votre modèle économique de manière pérenne.
Ça,
et non pas
essentiel.
Comme aujourd'hui, où la personne dit, bah, dans mon stockage, j'ai X milliers de tonnes, qu'est-ce que j'en fais demain ? Je n'ai pas d'acheteur. Et donc, je vais attendre pour le vendre. Mais j'ai du capital qui est là, je ne sais plus quoi faire, donc je ne peux plus payer mes gens. Problème d'Emmaüs aujourd'hui qui n'a plus de marché pour ses produits. Et donc, il dit, bah, j'arrête, je ne peux plus continuer. Donc, vous voyez que ça, c'est le modèle industriel qui apporte de la transparence, de la visibilité, de la confiance dans un modèle et qui permet aux investisseurs d'être là.
Ouais, et de pouvoir aussi créer une filière plus globale. Et là, j'appelle aussi, parce que pourquoi je vous parlais du luxe ? Parce que c'est vrai que Décousu, et on parle aussi beaucoup du secteur du luxe, et le gros problème sur les marques comme ça, c'est qu'elles partent du principe que des modèles comme ça tuent la créativité, et chose contre laquelle je milite, parce que non, encore une fois, une matière première ne conditionne pas la potentialité de la création, donc il faut garder ça en tête. Encore une fois, on a vraiment pu, selon moi, bien éclaircir tous les points, en tout cas, que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça, parce que le temps file terriblement. Ça fait déjà une heure qu'on échange. Donc, j'espère que vous avez eu le temps d'aborder aussi tous les points que vous vouliez.
Oui, tout à fait. Maintenant, vous vouliez parler de notre ambition en termes de compagnie, de société.
Voilà, c'est ça, d'un point assez synthétique.
On a décidé de porter notre développement avec deux jambes, deux piliers. Le premier, c'est l'Europe, parce que c'est là que le déchet. Hein, c'est là que sont les consommateurs. Et l'autre pilier qu'on développe, c'est les États-Unis, le continent nord-américain. Canada, États-Unis, Mexique. Okay. Donc, on a aujourd'hui des investissements qui sont potentiellement à lancer dans les deux endroits.
Et les questions de douane, etc., c'est pas de l'incertitude
Si vous êtes américain, vous fabriquez et vous recréez de la valeur locale. Et donc, vous utilisez des...
Vous voulez faire localement, ouvrir une usine localement.
Hein. Voilà, donc on a déjà, nous, Riju, annoncé où on allait construire notre usine. On va la construire dans le nord de l'État de New York, hein, parce que c'est là que ça, on a les bons partenaires. On a annoncé où est-ce qu'on allait construire en Europe. Donc on a annoncé que si on construit en Europe, on a un site de construction industrielle qui est possible aux Pays-Bas, donc à côté de Maastricht. Et on en a un autre annoncé récemment dans le sud-ouest de la France, à Lac, donc sur la plateforme industrielle de Lac, qui est dans la région Grande-Aquitaine. Donc on est déjà en train de structurer, et ça... Pour une entreprise comme Riju, c'est la vague numéro 1. Donc, je n'ai pas l'ambition de construire qu'une seule usine.
Ouais.
J'ai l'ambition, dans la compagnie, on a l'ambition de pouvoir capturer, en termes de part de marché, 25% mondial de la part de marché de recycle, textile tout textile, post-consommateur, polycoton dans le monde.
Eh bien, en tout cas, ça nous donne un bon axe à suivre pour les années à venir. Donc, j'enjoins tout le monde à suivre un peu votre actualité, donc aussi de façon plus globale de Technip Energy. Et bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. C'était un vrai plaisir. Et puis, j'espère que le plaisir a été partagé.
C'est toujours une excellente opportunité de parler. D'abord, vous avez compris, moi, c'est ma passion. Et de pouvoir aborder des sujets vraiment avec une transparence. Qui allait croire ? Celui qui va installer son usine à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est, ou celui qui essaye, parce que c'est difficile, croyez-moi, de l'installer ici, en Europe, et de recréer une certaine souveraineté. Et je trouve qu'on rencontre de plus en plus de gens, de politiques, d'acteurs, du monde associatif, mais aussi du monde, environnemental, qui comprennent que des positions radicales, c'est bien, mais il faut aussi regarder à faire... transformer le modèle. Et là, on est un agent de transformation, on essaie.
Oui,
voilà.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère que cet épisode vous aura, même s'il était un peu technique, c'est vrai, vous aura bien permis de comprendre pourquoi c'est un enjeu qui vraiment est infini. Là, on a fait qu'effleurir un peu, voilà, mais il y a tellement de complexité. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, je vous dis potentiellement à très bientôt.
Merci à vous et bonne continuation à vous dans vos objectifs autour de la fibre.
Merci, au revoir.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Ce qu'on peut donc dire à l'issue de cet épisode, c'est que le recyclage textile, au fond, révèle peut-être ceci. La circularité n'est pas une formule magique, c'est bien le moins qu'on puisse dire. C'est une infrastructure industrielle à construire. Collecter les textiles, trier les matières extrêmement diverses, séparer des fibres mélangées, éliminer des teintures, garantir la qualité des fibres recyclées, sécuriser des volumes suffisants, etc., etc., etc. Chaque étape pose ses propres défis techniques et économiques. En tous les cas, je remercie Alain Poincheval pour avoir traité ce sujet extrêmement complexe et je vous enjoins bien évidemment à aller sur l'Instagram de Décousu Podcast, partager l'épisode autour de vous, mettre une note à l'épisode sur votre application de podcast. Et n'oubliez pas, si vous aimez un créateur de contenu et si vous aimez le contenu de Décousu, le soutenir en le partageant, c'est la meilleure façon de le faire vivre. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.